VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 12 avril 2019, en direct de Washington, Eric Manilakiza et Anne Albertson. D'abord le sommaire.
Au Soudan, l'armée a renversé Omar al-Béchir, qui dirigeait le pays d'une main de fer depuis 30 ans. Les militaires ont annoncé une transition militaire de 2 ans.
Ça ne me surprend pas, mais ça me déçoit beaucoup.
Pourquoi ?
Parce que ça me semble être un coup d'état de palais.
Les Mauritaniens dans la rue pour exiger la transparence de la présidentielle le 2 juin prochain.
À la veille des législatives au Bénin, le président Patrice Talon tente de calmer les esprits.
Au Niger, 20e anniversaire de l'assassinat du président Ibrahim Barré Maïnassara.
Nous avions l'impression, depuis ces 20 ans, que le président avait été assassiné plusieurs fois.
L'avocat du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, contre-attaque après son arrestation à Londres.
Et dans 10 minutes, la page sport et l'actualité économique. Pour l'instant, le journal.
Les réactions fusent dans le monde après la destitution hier du président soudanais Omar al-Béchir par l'armée dans le sillage d'un soulèvement populaire. L'ONU, l'Union européenne et Washington ont appelé à intégrer les civils dans le gouvernement de transition. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les États-Unis continuent d'appeler les autorités de transition à la retenue et à faire de la place pour une participation des civils au sein du gouvernement, a déclaré Robert Paladino, porte-parole de la diplomatie américaine. Il a souhaité que la période transitoire n'excède pas 2 ans, sans dire si une transition militaire moins longue serait acceptable aux yeux de Washington. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé que la transition respecte les aspirations démocratiques des Soudanais. Le patron de l'ONU a réitéré son appel au calme et à la retenue, exhortant à un processus de transition approprié et inclusif. L'Union européenne, à travers la chef de sa diplomatie, Frédérica Mogherini, a demandé à l'armée le transfert rapide du pouvoir à un gouvernement civil de transition. Omar el-Béchir a été renversé et remplacé par un conseil militaire de transition censé diriger le pays pendant 2 ans. Cette transition militaire a été aussitôt rejetée par les meneurs du mouvement de contestation. Le conseil de sécurité tient aujourd'hui une réunion d'urgence sur le Soudan.
La chute de Omar el-Béchir semble avoir pris au dépourvu l'administration américaine. Monsieur el-Béchir était jadis désigné comme l'un des pires ennemis de Washington et était engagé dans un certain dégel avec les États-Unis. L'armée a annoncé une transition militaire de 2 ans.
Des milliers de Mauritaniens ont manifesté hier à Nouakchott à l'appel de l'opposition. Ils exigent des mesures garantissant la transparence de l'élection présidentielle de juin, une commission électorale neutre et la présence d'observateurs indépendants. Jean-Roger Bion.
Les manifestants, partis de plusieurs points de ralliement, ont rejoint dans la soirée une place du centre de Nouakchott, conduite par 4 candidats déclarés à la présidentielle issus de l'opposition. Il s'agit de l'ancien premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar, soutenu par le parti islamiste Wassoul, le militant anti-esclavagiste Biram Oulda Ould Abed, l'opposant historique Mohamed Ould Mouloud et un ancien journaliste Amidou Babakan, soutenu par une 15aine de petits partis et d'organisations de la société civile. Ces manifestants réclament la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qualifiée par l'opposition de partisane. Ils affirment que les membres de cette CENI, sauf un seul, soutiennent ouvertement le candidat du pouvoir, l'ancien général Mohamed Ould Ghazouani, proche du président Mohamed Ould Abdelaziz. Les opposants exigent également la présence d'observateurs indépendants au cours du scrutin. Néanmoins, la date précise n'a pas encore été fixée, non plus l'audit du fichier électoral qui doit faire l'objet d'un recensement complémentaire du 24 avril au 4 mai, selon un communiqué de la CENI.
Au Mali, une manifestation pour dénoncer l'insécurité dans le nord du pays après le meurtre hier d'un jeune chauffeur d'ocar près de Tombouctou a dégénéré en scène de pillage. Ce banditisme a visé les communautés Touareg et arabes de la communauté de Goundam. Le chauffeur indépendant Alpha Touré a refusé d'arrêter son véhicule qui transportait 14 personnes de Goundam à Tombouctou et a été atteint par balle. Les jeunes de Goundam se sont révoltés en organisant une marche de protestation qui a mal tourné.
Au Bénin, la campagne électorale pour les législatives démarre aujourd'hui. Hier soir, le président Patrice Talon s'est adressé aux Béninois au cours d'une émission diffusée sur la télévision nationale. Le point avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Au cours de cet entretien très attendu par les Béninois, le chef de l'État est revenu sur le système partisan objet de bien de critiques. Pour Patrice Talon, il était difficile pour un chef d'État de bien exercer et conduire sa politique de développement avec une multitude de partis politiques dont les présidents marchands de négociés pour leurs intérêts personnels. En ce qui concerne la non-participation de l'opposition aux législatives, le président de la République a affirmé que ce qui se passe en venant par le Bénin et qu'il a joué sa partition pour qu'une porte de sortie soit trouvé à ceux qui espéraient que son intervention du jeudi soir déboucherait sur la prise d'une ordonnance. Le chef de l'État a répondu qu'on ne prend pas une ordonnance pour fixer un nouvel ordre politique. Je n'ai pas dans mon rôle à remettre en cause un idéal politique accepté par la classe politique tout entière, a-t-il précisé avant d'ajouter qu'il n'a pas le pouvoir de prendre une ordonnance pour dessaisir le Parlement de ses prérogatives. Et pour finir, Patrice Talon a prié la classe politique à ne pas verser dans la violence. Il ne sert à rien de se contenter d'une démocratie aisée qui nous maintient dans le chaos, a-t-il relevé, avant d'ajouter que appeler à brûler le pays parce qu'on ne va pas à une élection n'est pas responsable. Les regards sont désormais tournés vers la campagne électorale et déjà acteurs politiques, la société civile et autres appellent à la promotion de la paix ou des élections sereines et sans dégâts. De Cotonou, Jeanette Fleur-Adonné pour VOA Afrique.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé un cessez-le-feu en Libye. Les combats ont déjà fait 56 morts en une semaine, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Ces combats faisaient toujours rage ce jeudi près de la capitale Tripoli, cible depuis le 4 avril d'une offensive du maréchal Khalifa Haftar qui veut s'emparer de Tripoli, siège du gouvernement d'Union nationale. En face, les forces pro-Jena affirment être déterminées à mener une contre-offensive généralisée.
Quelques 70 migrants ont été débarqués hier soir sur l'île italienne de Lampedusa après avoir été interceptés sur une embarcation par les autorités. Ces migrants ont déclaré être de nationalité tunisienne et libyenne et se trouvaient dans un canot dans les eaux territoriales italiennes en route vers les côtes de la Sicile. Leur transfert à Lampedusa va permettre d'accélérer leur identification et de lancer les procédures d'expulsion.
Au Mozambique, une quarantaine d'organisations des droits de l'homme et de la presse sont appelées hier à la libération immédiate d'un journaliste mozambicain, arrêté début janvier dans le nord du pays. Il n'a pas encore été formellement inculpé et la date de son procès n'a pas encore été fixée. Au moment de son arrestation, il couvrait les violences liées à une insurrection islamiste. Ces organisations de Human Rights Watch, Amnesty International et Reporters sans frontières affirment qu'Ahmad Aboubakar est un prisonnier de conscience, uniquement détenu pour son travail.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'avocat de Julian Assange, Barry Pollack, a dénoncé hier ce qu'il appelle un effort sans précédent des États-Unis pour obtenir l'extradition d'un journaliste étranger afin qu'il soit inculpé pour avoir publié des informations véridiques. Abdourahman Dia.
L'avocat de Julian Assange, Barry Pollack, a dénoncé hier ce qu'il appelle un effort sans précédent des États-Unis pour obtenir l'extradition d'un journaliste étranger afin qu'il soit inculpé pour avoir publié des informations véridiques. Hier, le président Donald Trump a refusé de commenter cette affaire. « Je ne sais rien de Wikileaks, ce n'est pas mon affaire », a-t-il lancé. L'Australien de 47 ans s'était réfugié en 2012 dans les locaux de l'ambassade d'Équateur à Londres, 2 ans après la publication par Wikileaks de 250 000 câbles diplomatiques et d'environ 500 000 documents confidentiels portant sur les activités de l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. Les autorités avaient dénoncé la mise en danger des agents de terrain. Le droit américain condamne sévèrement la divulgation de documents confidentiels. L'ancien analyste de l'armée américaine Bradley Manning, à l'origine de cette fuite sans précédent, a écopé d'une peine de 35 ans de prison, finalement commuée à 7 ans par le président démocrate Barack Obama.
Les personnes transgenres souhaitant s'engager dans l'armée des États-Unis ne pourront le faire à partir d'aujourd'hui que si elles acceptent de ne pas changer de sexe, selon un nouveau règlement du Pentagone. Le président Donald Trump a en effet décidé de rompre avec une décision de son prédécesseur démocrate Barack Obama, qui avait autorisé les recrues transgenres à servir en fonction de leur identification sexuelle.
La ministre vénézuélienne des prisons, Iris Varela, connue pour ses prises de position radicales, a conseillé hier au président Nicolas Maduro d'écarter les fonctionnaires qui disposent d'un visa américain. Elle a assuré qu'une personne dotée d'un visa américain n'est pas suffisamment fiable et qu'il y avait des traîtres dans l'entourage du chef de l'État. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée par Morgane Guerrier.
Au Nigeria, le gouvernement veut miser sur les zones économiques spéciales pour doubler la production manufacturière d'ici 2025. D'après le gouvernement, cette mesure permettra de faire passer la production manufacturière du Nigeria à 20% du PIB contre 10% actuellement. Pour ce faire, le gouvernement a mis en place la Nigeria 16 Investment Company. Celle-ci aura essentiellement pour rôle de mobiliser les financements nécessaires pour la mise en place de plusieurs parcs industriels dans les zones économiques spéciales à Lagos, dans l'état d'Abia et dans l'état de Katsina. Le Zimbabwe et le Fonds monétaire international se sont entendus sur des mesures destinées à relancer l'économie de ce pays, moribonde depuis deux décennies, et faciliter le réengagement d'Harare auprès d'organismes emprunteurs. C'est ce qu'a annoncé le FMI jeudi. Le Zimbabwe se bat aujourd'hui avec un taux de chômage d'environ 90%, une pénurie de liquidités et ponctuellement de denrées de première nécessité. Sachez enfin que l'aide au développement a subi un recul inquiétant, en particulier vers les États qui en ont le plus besoin, les pays donateurs ne tenant pas leurs engagements, alerte l'OCDE. Cette aide a connu une baisse de 2,7% l'an dernier par rapport à 2017 pour s'établir à 149,3 milliards de dollars, a indiqué l'Organisation pour la coopération et le développement économique, qui a constaté que l'aide bilatérale accordée aux pays les moins avancés a baissé de 3% et qu'elle a même chuté de 4% pour l'Afrique.
Et dans votre page des sports, nous retrouvons Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
On ouvre avec le football Yacouba, tirage au sort de la CAN 2019 ce soir en Égypte.
Oui, la CAF a dévoilé les chapeaux hier et a officialisé la répartition des 24 équipes qualifiées sur la base du dernier classement mondial FIFA. 6 groupes de 4 équipes chacune en seront formés. Ainsi, on retrouve l'Égypte, pays hôte, le Cameroun tenant du titre, le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria et le Maroc dans le pot 1. Le chapeau 2 renferme la République démocratique du Congo, le Ghana, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée et l'Algérie. Pour leur première participation à une phase finale de CAN, la Mauritanie et Madagascar se retrouvent dans le pot 3 en compagnie de l'Afrique du Sud, de l'Ouganda, du Bénin et du Kenya. L'autre novice de la compétition, le Burundi, partage le pot 4 avec le Zimbabwe, la Namibie, la Guinée-Bissau, l'Angola et la Tanzanie. Le tirage au sort aura lieu ce soir à partir de 18h temps universel au pied des pyramides du Sphinx en Égypte. Pour l'occasion, la CAF a invité 4 légendes qui serviront de témoins. Il s'agit du Nigérian Emmanuel Amunike, le Marocain Mustapha Hadji, l'Ivoirien Yaya Touré et le Sénégalais Eladj Diouf.
Direction maintenant au Soudan où un match a été reporté sine die.
Oui, la rencontre entre les clubs soudanais d'El Hilal et tunisien de l'Étoile du Sahel, censée se tenir cette semaine au Soudan, a été reportée pour des raisons sécuritaires d'après la CAF. Cette annonce est intervenue quelques heures après le renversement par l'armée soudanaise du président Omar El Béchir au terme d'un soulèvement populaire. L'espace aérien a été fermé pour 24 heures et les frontières terrestres jusqu'à nouvel ordre. Ce match retour de la Coupe CAF devait avoir lieu dimanche au stade El Hilal d'Omdurman. L'Étoile du Sahel a remporté le match aller 3 buts à 1 la semaine dernière à Sousse en Tunisie.
Au-delà de la Méditerranée, match aller en Europa League hier, Yacouba.
Et oui, Arsenal a su classer le Napoli de Carlo Ancelotti 2-0 et est en bonne posture en vue des demi-finales comme son voisin Chelsea. Vainqueur sans briller au Slavia Prague 1-0. Un peu plus à l'est, le derby Villarreal-Valence a souri en fin de rencontre aux Valenciens, auteur de 2 buts cruciaux dans le temps additionnel 3 buts à 1. Les partenaires de Gonçalo Guedes, qui a marqué un doublé, ont pris une grosse option pour les demi puisqu'ils recevront leurs voisins au retour dans une semaine.
Et fin de saison pour Diego Costa en Espagne.
Oui, l'attaquant de l'Atlético Madrid a été suspendu pour 8 rencontres de Liga pour avoir insulté et agrippé l'arbitre lors de la défaite contre le FC Barcelone samedi dernier 2-0. Le comité de compétition, entendait l'organe disciplinaire de la Fédération espagnole, a sanctionné l'hispano-brésilien de 4 matchs pour les insultes proférées par le joueur à l'arbitre et 4 autres pour l'avoir agrippé. Il écope aussi d'une amende de 6 000 € et 2 800 € pour le club. Diogo Costa ne jouera plus cette saison parce qu'il ne reste à l'Atlético que des matchs matchs de Liga à jouer après les éliminations en Ligue des Champions et en Coupe du Roi. Les Colchoneros ont bien évidemment fait appel de cette décision.
C'était l'espoir de Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Eric Manilakidza, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, c'est cette semaine qu'on commémore le 20e anniversaire de l'assassinat du général Ibrahim Barré Maïnassara, président de la République de 1996 à 1999. Année au cours de laquelle il a été tué par des éléments de son propre garde. 20 ans après, sa famille réclame toujours justice. À l'époque, on avait qualifié son assassinat d'accident malheureux. Le reportage est signé Abdelrazak Idrissa.
Pour ce 20e anniversaire encore, c'est la justice que réclament la famille et les amis du président Ibrahim Barré Maïnassara.
Nous avions l'impression, depuis ces 20 ans, que le président avait été assassiné plusieurs fois.
Clémence Aïssa Barré, épouse du défunt chef d'État.
On a fait tout notre possible au terme de la justice au Niger. La CEDEAO nous a rendu raison, un verdict qui ne peut pas être contesté. Nous continuons, puisque la CEDEAO demandait de faire la vérité sur ce qui s'est passé, que nous y avons droit. Et qu'aujourd'hui, les réponses du côté de l'État sont qu'il y a une amnistie qui empêche de faire la justice. Mais ce que nous savons, c'est que cette amnistie a été modifiée. Maintenant, c'est un décret qui verrouille une loi d'amnistie, mais l'amnistie elle-même n'est plus dans la Constitution. Donc aujourd'hui, pour nous, il suffirait d'un décret présidentiel et que ce soit présenté à l'Assemblée pour que la vérité soit faite.
Après toutes les tentatives infructueuses devant les tribunaux au niveau national, la famille Barré s'est tournée vers la Cour de justice de la CEDEAO qui a ordonné en 2015 à l'État du Niger de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire droit à la demande de la famille Barré. 4 années plus tard, aucun signe. Idi Ango Omar, ancien ministre et compagnon de l'homme.
Aujourd'hui, nous attendons de nos leaders une certaine dimension qui puisse leur permettre de se mettre au-dessus et de se dire leur personne importe peu, leur parti importe peu. Tant qu'on est dans la voie de la recherche de la vérité et de la justice, on doit pouvoir créer les conditions pour apaiser le cœur de cette famille qui, pendant 20 ans, est dans un semi-deuil. Et je pense qu'il est possible de le faire sans passion, sans règlement de compte, pour que les Nigériens sachent réellement ce qui s'est passé.
Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1996, le général Ibrahim Barré Maïnassara organisa et remporta des élections quelques mois plus tard. La contestation de son élection par l'opposition d'alors n'a pas faibli jusqu'en 1999 où il trouva la mort à la suite d'un coup d'État attribué aux éléments de sa propre garde rapprochée. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Plus de 3 mois après la tuerie de Yirgu, dans le centre nord du Burkina Faso, justice n'est pas encore faite. Parallèlement, des milliers de déplacés de Yirgu sont sans assistance humanitaire. Selon le gouvernement burkinabé, cette tuerie a fait 49 morts, tandis que le collectif contre l'impunité, une organisation de la société civile, avance plus de 200 morts. De Ouagadougou, les précisions de Lamine Traoré.
Le 1er janvier après une attaque armée à Yirgu, une bourgade située dans le centre nord du Burkina, la communauté peule locale a été prise pour cible par des villageois Mossi, aidés par des membres de leur groupe d'autodéfense, les Kogluogo. Il s'agit de la plus grave violence intercommunautaire jamais enregistrée au Burkina, selon des spécialistes. 49 morts selon le gouvernement, 210 d'après le collectif contre l'impunité, une organisation de la société civile créée au lendemain de ces massacres. Les services judiciaires avaient pu identifier 130 suspects sérieux. Mais voilà, depuis tout ce temps, rien n'est fait pour rendre justice aux victimes. Les Kogluogo, les présumés auteurs de cette tuerie, règnent toujours en maître dans les localités affectées par la violence.
Nous avons pu dénombrer 210 morts depuis fin janvier et jusqu'à présent, en tout cas c'est le statu quo.
Docteur Daouda Diallo, secrétaire général du collectif.
Avec ces 130 suspects qui sont toujours armés, qui continuent toujours avec les autres camarades, milices Kogluogo, qui patrouillent toujours sur le site des déplacés, qui harcèlent toujours les déplacés, qui enlèvent même les déplacés, qui continuent de tuer. Nous estimons qu'il y a un statu quo où le dossier avance très timidement vers le judiciaire. Parce que si rien n'est fait et qu'on n'intimide pas ces groupes d'autodéfense ou ces milices surtout qui sont devenus des milices, ils vont même exterminer les déplacés qui sont actuellement dans les camps parce qu'ils continuent d'aller là-bas et enlever les gens qu'ils veulent.
L'avocat du collectif estime qu'il y a manque de volonté politique à rendre justice aux victimes. Ambroise Farama.
Dans ce drame qui est celui de Yirgo, qui est le drame le plus horrible que nous avons connu et dans lequel donc les personnes sont identifiées, malheureusement là, il n'y a aucune inquiétude plus de 100 jours après. Pourquoi dans le cas de Yirgo, il n'y a rien? Est-ce parce que les Kwaruego sont puissants? Est-ce parce qu'ils sont armés? Ou alors est-ce parce qu'il y a un calcul politique en arrière qui fait qu'on ne souhaite pas les arrêter? Est-ce que c'est l'échéance de 2020 qui préoccupe? C'est inquiétant.
Autre chose, des milliers de déplacés ayant survécu à la tuerie des Yirgo vivent dans un dénuement total dans les camps de déplacés.
Malheureusement, dans la zone de Kelbo, où il y a plus de déplacés, environ 5000 personnes, il n'y a aucune assistance depuis lors.
Bourema Diko, secrétaire chargé des affaires humanitaires du collectif.
À Kelbo, à Belganyangé et à Noral-Tingal, les déplacés sont laissés à eux-mêmes. Nous lançons un vibrant appel au gouvernement pour qu'ils également fassent la même chose qu'ils ont fait au niveau de Barsalgo et de Foubé, aux populations de Kelbo également qui ne déméritent pas et qui sont des victimes directes des massacres de Yirgo.
Le collectif pense que c'est parce qu'il n'y a pas eu de justice pour les victimes de Yirgo qu'une autre tuerie a eu lieu début avril à Arbinda, dans le Sahel, faisant plus de 60 morts selon le gouvernement et au moins 100 selon le collectif. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le président Omar El-Béchir, qui dirigeait le Soudan depuis 30 ans, a été renversé ce jeudi par l'armée à la suite d'un soulèvement populaire et remplacé par un conseil militaire de transition pour 2 ans. Le ministre de la Défense a annoncé la chute du régime et le placement en détention de Omar El-Béchir dans un lieu sûr. Pour une analyse, Morgane Guiriec a joint Souleymane Baldo, spécialiste du Soudan et conseiller à INAF Project.
Ça ne me surprend pas, mais ça me déçoit beaucoup.
Pourquoi?
Parce que ça me semble être un coup d'État de palais. Ce qu'on voit maintenant, c'est le pilier de sécurité et de défense qui vient au secours de Béchir en prenant le pouvoir, en prétendant qu'il y a un changement. Or, ce n'est pas aux architectes de 30 ans de répression, de guerre civile et de corruption massive en qui on peut donner une confiance qu'ils peuvent changer quoi que ce soit de leur propre conduite. On s'attendait à une prise de pouvoir par l'armée. C'est une coalition des organes de sécurité, de défense et de police qui, ensemble, au nom du comité supérieur de sécurité, qui prennent le pouvoir. Pour moi, ça a l'apparence d'un coup d'État orangé de palais.
Omar El-Béchir est remplacé par un conseil militaire de transition pour 2 ans, vous désapprouvez cette mesure?
Je désapprouve dans la mesure où le peuple soudanais, toute la société et sa composante entière ont été dans la rue pendant 4 mois demandant le départ de Béchir. Ils ont assiégé le quartier général de l'armée du Soudan et ils ont continué à avoir le pouvoir. Que l'armée en tant qu'institution qui restait neutre dans la répression prenne le pouvoir pour changer le régime, pas pour le préserver. C'est un nouveau pas de la crise au Soudan qui s'ouvre, ce n'est pas une solution ou bien sortie de crise qui vient d'arriver avec cette prise de pouvoir par le général Dibnov.
Vous vous dites déçu par ce coup d'État. Y a-t-il un scénario qui vous aurait semblé plus acceptable?
Je crois que c'était le devoir et la responsabilité de ceux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui. Je le répète encore, ce n'est pas l'armée, c'est le comité de sécurité qui regroupe tous les organes de sécurité et de défense, y compris l'armée, la police, le service de sécurité et d'intelligence et la malice d'intervention rapide de Fimeti de mauvaise réputation. Ensemble, ils ont pris le pouvoir. Disons, au lieu de déclarer un coup d'État militaire unilatéralement, ils avaient la responsabilité et le devoir de consulter avec le leadership des protestations civiles, c'est-à-dire la coalition des forces pour la liberté et le changement. Ces forces-là n'ont pas été consultées. Ils ont appelé la population donc à continuer les protestations civiles pour qu'il y ait un changement réel dans le pays et n'est pas un changement, disons, d'apparence.
Souleymane Baldo, spécialiste du Soudan et conseiller à Enough Project, l'ancien chercheur d'Amnesty International au Soudan, Jean-Baptiste Galopin, commente également ce départ inattendu de M. El Béchir.
Ce qu'on a vu aujourd'hui au Soudan, c'est en fait une tentative de la majorité du régime de sauver les meubles, d'éviter que le régime entier soit renversé. Et donc, les dirigeants des services de sécurité de l'armée ont décidé de se débarrasser de Bachir. Cette annonce qui a été faite d'une période de transition de 2 ans n'est pas vraiment crédible du point de vue des manifestants, dans la mesure où Ahwad Ibn Aouf, qui a hérité du pouvoir, était très proche de Bachir, qu'il a coordonné des opérations de contre-insurrection très violentes au Darfour au début des années 2000, et par ailleurs que le nouveau régime a annoncé un couvre-feu qui vise donc à pousser les manifestants à rentrer chez eux. La réaction à tout cela a été très rapide. Dans les minutes qui ont suivi l'annonce, les principales organisations de l'opposition ont annoncé qu'elles continueraient à se mobiliser, et ce soir, la mobilisation reste très forte, des dizaines de milliers de personnes à Khartoum. La question aujourd'hui va être de savoir si le régime a encore la capacité suffisante pour réprimer ses manifestants et si les manifestants vont continuer à se mobiliser dans les jours qui viennent. C'est ça qui va vraiment être décisif dans l'issue de cette crise.
Propos recueillis par Salem Salomon, et c'était Jean-Baptiste Galopin, ancien chercheur d'Amnesty International au Soudan.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
La vidéo de la fusillade à la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande, diffusée en direct le mois dernier, a mis en avant le combat continu des réseaux sociaux pour contrôler le contenu extrémiste sur les plateformes. Des représentants de Facebook et de Google ont déclaré mardi aux législateurs américains que leurs efforts visant à équilibrer liberté d'expression et surveillance du contenu posté par la suprématie blanche se poursuivaient. Catherine Gibson, correspondante au Congrès pour la Voix de l'Amérique, nous en dit plus à travers ce récit de Jade Rivet.
Depuis 2007, des attaques de l'extrême droite ont eu lieu dans de nombreux pays. Le problème est global et la diffusion de la vidéo de la fusillade en Nouvelle-Zélande a posé un nouveau défi pour les réseaux sociaux.
Nous avons empêché 1,2 million de téléchargements et avons pu en trouver 3 semaines supplémentaires dans les 24 heures qui ont suivi. Nous avons eu une réponse très rapide.
La décision de supprimer les vidéos de fusillade de masse est claire. Contrôler la liberté d'expression de plus de 2 milliards de personnes est toutefois beaucoup plus complexe.
Les discours de haine, parce qu'ils reposent souvent sur des indices de langage plutôt que des signaux visuels, sont parfois plus difficiles à détecter que certaines formes de propagande terroriste. Cela dépend du contexte et peut être sujet à controverse. Il y a des désaccords sur ce qui pourrait être considéré comme un discours politique. À l'opposé, des règles trop agressives peuvent faire taire par inadvertance les voix qui utilisent la plateforme pour se faire entendre sur ces questions importantes.
Les entreprises de réseaux sociaux sont légalement protégées de toute responsabilité pour les contenus publiés sur leur plateforme. La propagande et les publications de la suprématie blanche ont toujours été interdites sur Facebook, mais l'entreprise a récemment élargi le champ de cette interdiction en redirigeant les utilisateurs vers une organisation à but non lucratif qui vise à les aider à quitter les groupes haineux. Les réseaux sociaux prennent tous des mesures visant à contrôler le contenu posté sur leur plateforme, mais la suprématie blanche reste un danger reconnu par les plus hauts responsables de l'application de la loi aux États-Unis.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Darrell Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction et à Jean-Roger Bion, Eric Manilakiza à Washington. Vous souhaite une agréable journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.